La révolte bute inlassablement contre le mal, à partir duquel il ne lui reste qu'à prendre un nouvel élan.
Camus et son vieux frère, Louis Guillou.
C'était un homme sans comédie. Enfin, j'entends par là que dans la vie proprement dite, il était comme les autres, sauf qu'il n'était pas comme les autres. Vous m'entendez? Il était d'une joie permanente, d'une présence amicale, qui ne tenait pas compte de ce qu'il était indépendamment. Enfin, je veux dire, on ne le sentait jamais. Il ne jouait pas les grands écrivains. C'était un homme très simple. Si on sortait, si on dînait, la littérature était présente et elle pouvait l'être, mais elle n'était pas obligatoire.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Depuis longtemps, et plus encore à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Albert Camus, se déploie toute une politique d'édition de correspondance. Chiaromonte, un ami italien, chez Gallimard, c'est une publication nouvelle. La famille Benisti, c'est chez Bleu Autour. Et puis, Folio reprend donc en format de poche la correspondance d'Albert Camus avec le vieux pote Louis Guillou. Bonjour à vous, Agnès Piquel.
Bonjour.
Présidente de la Société des études camusiennes et responsable, entre autres, de cette publication. Il se définit, parce qu'il a 15 ans de plus que Camus, Louis Guillou comme du schnock.
Oui.
Vous aimez pas ça? Pote, oui, du schnock, non.
Oui, non, parce que jamais Camus n'utilise ce terme. Donc je ne l'utiliserai pas, mais c'est... Guillou, c'est son vieux pote, quoi.
Alors, 15 ans, donc, les séparent, et puis aussi la distance géographique, parce que Louis Guillou, c'est un homme de Bretagne, de Saint-Brieuc, et Camus, davantage un homme du Sud, ils auraient pu ne pas se rencontrer.
Oui, c'est grâce à Jean Grenier et à Gallimard qui se sont rencontrés, donc, puisque tous les deux connaissaient très bien Jean Grenier. Louis Guillou, c'était pour lui un vieil ami, et pour Camus, c'était son maître vénéré des années de terminale et de début d'année universitaire à Alger, au milieu des années 30.
Instantanément, ils s'en reconnaissent. Parce oui. Ils ont tous les deux la même vision de l'homme. C'est-à-dire que la vision de l'homme, c'est d'abord la relation de l'homme avec autrui.
Alors, j'ai envie de simplement de vous lire leurs deux premières lettres. Guillou à Camus, 21 novembre 45. J'attache à notre rencontre la plus grande importance. Il y avait longtemps que pareilles choses ne m'étaient pas arrivées. J'ai beaucoup pensé à vous depuis. Et Camus lui répond quelques jours après, je suis heureux, très heureux de ces commencements d'amitié. J'ai sans raison de me sentir près de vous et j'espère que la vie me permettra de vous le prouver. C'est deux grands pudiques et ils se disent tout de suite qu'ils sont très heureux d'être devenus amis et assez vite, ils vont se tutoyer.
On parlera des livres de Louis Guillou parce que les deux, Camus et Guillou, se lisaient avant publication. Mais je voudrais d'abord qu'on situe l'endroit où est le fond Louis Guillou dans la maison que René Guillou et son mari Louis ont construite rue Lavoisier à Saint-Brieuc, qui est le point de départ de beaucoup d'activités culturelles aujourd'hui et le point d'arrivée de beaucoup de visites scolaires.
Voilà, alors nous entrons dans cette maison. On va monter. Si vous voulez bien, vous me suivez. Observez bien en même temps, parce que je ne sais pas comment vous imaginiez l'univers de Guillou. Notez sur ce palier, cette grande image d'Épinal, le soldat de l'an 2, et vous voyez, il est inscrit « Ici commence le pays de la liberté ».
Parmi vous, qui accepterait de me lire les quelques notes que vous auriez prises ou prises? Par exemple, toi.
Elsa. Sur le palier, un tableau, le soldat de la Révolution. Quand on rentre des livres, de la fenêtre, on voit le cimetière, Saint-Michel, la pointe du Rosselier, la place Saint-Michel, la baie de Saint-Brieuc. Sous la fenêtre des livres, des photos. Sur une table blanche, bougies, bureaux, journaux, des pipes, un stylo plume.
Et avant les élèves d'aujourd'hui, il y avait les demoiselles d'hier qui venaient consulter Louis Guillou, parmi elles Mona Ozouf peut-être.
Louis Guillou, on vous surprend à l'heure où les écolières viennent faire leur confidence du samedi soir, mais nous aussi, vous voudrions que vous nous fassiez vos confidences sur le Saint-Brieuc que vous avez connu dans votre enfance.
Eh bien, on va tâcher. Les confidences des demoiselles sont achevées. Elles vont aller goûter et nous laisser la place. Hein? Parce que ce sera plus commode si nous parlons. Au revoir, mesdemoiselles.
Dans vos premiers livres, vous racontez votre enfance, en particulier dans La Maison du Peuple et dans Le Pain des Rêves. Vous montrez que vous avez été profondément marqué par les années de la Première Guerre mondiale que vous avez vécu enfant et par la première après-guerre.
Ben, comment ne pas l'être, évidemment, avoir grandi dans le prolétariat pour commencer, être passé à l'école laïque et de là au lycée, et avoir découvert en 1914 que le lycée était devenu pour moitié un hôpital. Les études qu'on faisait, la vie au lycée à ce moment-là, était une vie de contact permanent avec les blessés. On assistait aux arrivages de blessés, ils se promenaient dans les cours, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, à côté de l'éducation proprement dite qu'on recevait en classe, on en avait une autre par les hommes qui venaient du front.
Parmi les blessés transportés à l'hôpital lycée, Louis Guilloux aurait pu rencontrer, dégoûtant de sang venu par un train sanitaire, Lucien Camus, le père d'Albert.
Oui, c'est en octobre 14, Lucien Camus a été mobilisé, il est arrivé, il n'était jamais venu en métropole, il arrive sur le front de la Marne et très peu de jours après, il est blessé à la tête et ramené avec un obus, un morceau d'obus dans la tête jusqu'à Saint-Brieuc où il meurt quelques jours plus tard. On imagine ce que ça représente et on imagine aussi ce qu'a pu être pour Camus la tentative pour se représenter ce qu'a été cette arrivée de son père en métropole, cette blessure, ce retour, et les quelques cartes postales qu'il envoie, bien que devenu aveugle par sa blessure, qu'il envoie pour essayer de rassurer sa très jeune femme, ne t'inquiète pas, ça va aller, et puis il meurt, et on envoie le morceau d'obus à la veuve.
C'est le début de la correspondance entre Saint-Brieuc et Alger. Ce qui est commun et qui fait qu'ils se rencontrent aisément, Guilloux et Camus, c'est ce qui vient du plus profond de leur enfance, la pauvreté.
La pauvreté, hein, la pauvreté et le contact avec le monde du travail. Camus n'a plus son père, sa mère fait des ménages, donc il n'assiste pas au travail de sa mère, mais il va constamment à la tonnellerie où son oncle travaille et il est constamment au plus près du geste de l'artisan, et toujours dans son œuvre, dans ses carnets, on verra cette attention au geste et cette admiration pour le geste juste de l'artisan qui, par exemple, courbe le futur tonneau.
Camus préfacera La Maison du Peuple, déjà citée, et puis un livre très bref qui s'appelle Compagnon, et qui raconte les derniers moments d'un artisan, Jean Carnevel, qui, de retour d'un chantier, se trouve mal, se couche dans sa chambre. Jamais ni Guillou ni Camus ne parlent de taudis pour les pauvres. Jean Carnevel est dans cette chambre, il en fait le tour et il est presque joyeux au moment de disparaître.
Carnevel ne dormait pas. Les yeux ouverts, il regardait la lampe que le bris avait allumée. Une paix lui venait, un grand sentiment de tendresse. Il jeta un long regard sur la chambre et soudain, des larmes coulèrent de ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de regret, mais des larmes de bonheur. Il ne savait pas d'où elles venaient. Il ne les essuyait pas. « Qu'est-ce que j'ai ? » murmurait-il. « Qu'est-ce que j'ai ?» Il avait entendu dire qu'au moment de la mort, les malades connaissent une trêve. « Est-ce cela ? Est-ce que je vais mourir déjà ? Tout seul ?» Si c'était cela, la mort était un grand bonheur. Il pensait à sa vie et il ne regrettait rien. Il lui semblait posséder l'amitié de tous ceux qu'il avait aimés comme il possédait la sienne. Le reste ne comptait pas.
L'amitié de tous ceux qu'il avait aimés comme il possédait la sienne. Voilà. C'est ça une vie accomplie dans l'unité.
C'est ça, une vie accomplie dans l'unité, et cette vie qui montre que le pauvre, celui qui n'a pas de mots, il peut avoir tout compris. Et c'est ce que Camus montre dans Le Premier Homme, ce livre qu'il n'a pas le temps de terminer, où il veut parler pour ceux qui n'ont pas la parole, et en particulier il pense à sa mère, qui est illettrée, relativement sourde, et pour montrer que le sens vrai de la vie, de la dignité, il est chez sa mère, il est chez ce père qu'il n'a pas connu, mais dont il sait qu'un jour, devant une atrocité, il a simplement dit, cet homme très fruste qui a appris à lire à 20 ans, il a simplement dit, un homme ça s'empêche, c'est-à-dire qu'il a profondément une morale. Tout cela, Guillou et Camus l'ont en commun.
On dit que Camus publie une préface pour Compagnon et La Maison du Peuple. Libération, à l'époque, journal communiste dirigé par Emmanuel d'Astier, un talon rouge qui s'est déjà accroché avec Camus, et son chroniqueur littéraire Claude Roy, encore communiste, disent « Mais pourquoi est-ce qu'on a confié à Camus cette préface ? Camus, il est devenu trop riche, c'est un bourgeois. Et alors, Guillou et Camus répliquent ensemble, on mesure pas comme ça, comme des inspecteurs des contributions directes. Et puis, d'ailleurs, nous avons appris la liberté, non pas dans Marx, mais dans la misère. Et on n'écrit pas sur la misère sans connaissance de cause.
Alors, je voudrais dire d'abord que Claude Roy et son journal auraient bien aimé pouvoir dissocier Camus et Guillou, c'est-à-dire garder Guillou ou enlever Camus, puisque Camus était considéré dans ces années-là comme l'ennemi du communisme depuis la publication de L'Homme révolté. Mais pour Guillou, ça marche pas. Il est complètement d'accord, je dirais, il est raccord avec Camus pour dire que les positions idéologiques n'ont rien à voir avec la vérité de la vie et que eux sont du côté de cette vérité de la vie. Et Camus, qui a adhéré 2 ans dans les années 30 au Parti communiste algérien, a toujours dit qu'il n'y aurait jamais un livre entre lui et la classe ouvrière et qu'il n'avait jamais lu Le Capital.
Saint-Brieuc les choux. Disait Louis Guillou, qui étrillait souvent sa ville. Saint-Brieuc, 1914. Encore un autre personnage. C'est Georges Palante, professeur de philosophie, qui a écrit à Paris, qui tenait une chronique dans le Mercure de France, et qui est un obscur enseignant du lycée, maintenant, et qui va être peint par Louis Guillou sous le nom de Cripure, et avec la silhouette d'un homme que les notables de la ville jugent bancal, bizarre, déséquilibré.
Ah, saloperie. Et dire qu'il va falloir que je me mette sur mon 31. Après avoir passé la nuit à corriger les dissertations de mes élèves. Et pourtant, millième, dix millièmes, cent millième jour de guerre. Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur. Et Dieu perd son temps à faire les étoiles. Et les fleurs.
Marcel Maréchal, qui a tant fait pour faire connaître le personnage de Cripure, qui est central pour Guillou, et ça intéresse Camus, parce que Cripure, c'est un homme de douleur. Il va finir d'ailleurs par se suicider. Guillou s'est fâché du fait de Cripure avec Cripure, Georges Palante. Camus, il appuie sur la douleur. Qu'est-ce qui s'est passé, demande-t-il dans sa correspondance à Louis Guillou.
Oui, il insiste beaucoup parce que il sait que Guillou voudrait écrire ses souvenirs sur Palante. Et il se dit qu'il peut les publier. Sauf que Guillou résiste finalement quand il s'agit de parler de Palante, tant il se sent coupable face à ce suicide qui a eu lieu en 1925. Donc lui avait déjà 26 ans, Guillou, et il s'était, vous l'avez dit, éloigné de Palante. Et Camus sent que il faut que Guillou y arrive. Et c'est très très étonnant. En novembre 46, ça fait donc un peu plus d'un an qu'ils se connaissent, Guillou commence une lettre à Camus, et au milieu de la lettre, ça, on le voit dans le manuscrit, c'est émouvant incroyablement, ça bifurque, et il commence ce qui est la lettre Palante, il y en a 18 pages, et ça devient de plus en plus désarticulé du point de vue de l'écriture, et il débonde la plaie, et c'est toute sa douleur, il raconte tout simplement ce qui s'est passé, la brouille et le suicide de Palante. Mais je crois très significatif que ce soit à l'intérieur d'une lettre à Camus qu'il ait pu faire ça. Alors, ce texte n'a jamais été publié, ça n'est pas devenu un livre. Mais sur la douleur, je crois qu'il faut élargir, si vous permettez, c'est que pour Camus, Guillou va devenir l'écrivain de la douleur. Et pour Camus, Et c'est vrai que dans Le sang noir, qui est un livre absolument magnifique, ça va très loin dans la douleur. Et c'est d'autant plus important que pour Camus, la douleur va devenir ce qui est toujours le point de l'humain dans quelqu'un. Et si je veux rejoindre quelqu'un, même quelqu'un de monstrueux avec des guillemets, c'est par le biais de la douleur. Guillou lui a appris ça.
Alors, Camus finit par venir à Saint-Brieuc, parce que Guillou y tient beaucoup, et puis il y a la tombe de son père, qu'il n'a jamais vue. Guillou dira « J'ai été indiscret en racontant que je l'ai dirigé vers la tombe de son père ». Un dialogue muet peut être reconstitué entre le père et le fils, sauf que on n'en a pas de trace vraiment.
On n'a aucune trace directe de ce moment où Camus est allé sur la tombe de son père. En acceptant d'aller à Saint-Brieuc, il savait très bien qu'il irait sur cette tombe. On n'en a aucune trace. Alors, tout le monde dit que le chapitre 2 du Premier Homme, c'est
autobiographique. C'est-à-dire le livre posthume de
Le livre posthume, c'est Camus. Autobiographique. Je pense que ce chapitre extraordinaire du Premier Homme, où Jacques Cormeris découvre qu'il est plus, que son père est plus jeune que lui, c'est-à-dire que son père est mort bien avant l'âge qu'il a à ce moment-là, c'est quelque chose que Camus construit à partir de multiples perceptions, y compris peut-être celles qu'il a eues ce jour-là, mais dans sa pudeur, y compris dans ses propres carnets, Camus nulle part ne parle directement de ce moment absolument clé. En revanche, il parlera avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie de ce passage à Saint-Brieuc. Et j'ai envie de vous lire parce que c'est très important ce passage à Saint-Brieuc.
Enfin, il trouve qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, pour se baigner, il fait un peu froid, puis la mer est loin, parce qu'il y a des marées, vous savez.
Oui, mais Yvonne Guillou, qui avait 15 ans, dit qu'il l'a emmené danser au casino de Trouville.
C'est la fille de Guillou.
Et quand même, je voudrais vous lire. Il dit à Guillou, des tas de gens m'entourent, mais ils demandent toujours, là-bas, au contraire, entre grenier et toit, cette complicité de l'intelligence, ces appels constants, une excitation heureuse. Oui, je crois que j'ai été heureux avec vous. Camus dira vraiment qu'il a été heureux. Il a été heureux à Saint-Brieuc avec ces deux êtres qu'il aimait.
Et puis l'attraction avant de Grenier, de ce démon. Mais enfin, si vous veniez en Algérie, ils finissent par se tutoyer.
Oui.
En 48, voilà Guillou dans un hôtel de la vallée de la Chifa, non loin de Blida, où se rencontrent des intellectuels algériens et des écrivains français. Il y a Camus, il y a Guillou, il y en a d'autres encore. Et là, c'est pèlerinage obligatoire, pas au cimetière, à Tipaza et à ses ruines.
Je suis allé avec lui à Tipaza. À Tipaza, il était merveilleux à voir.
J'ai l'impression que Tipaza doit vous apprendre beaucoup sur lui, non ?
Ah, l'endroit. Alors, écoutez-moi. Il dit, eh oui, il te manque un nuage.
Il y en a des fois, des nuages à Tipaza. Moi, j'en ai vu des nuages.
Oui, pas moi.
Non, mais j'ai l'impression, dans cette ville faite de ruines romaines et où tout le jardin public est construit, enfin, est dessiné autour des ruines romaines. Il y a la nuit dans cette espèce de merveilleux jardin et dans ces ruines qui plongent sur la mer, comme en Grèce, quoi. Alors, on le voit emmenant quelques demoiselles dans les jardins la nuit. Moi, je l'imagine très bien, Tipaza. Enfin, le lieu est fait pour lui.
Fait pour lui, alors il ne disait pas grand-chose, il s'asseyait comme ça, il se mettait le verre dans la bouche, puis il regardait un peu comme un enfant.
Les deux potes, Camus et Guillou, à Tipaza en 48, c'est un dialogue entre Louis Guillou et Grenier. Mais un autre Grenier, un pilier de Gallimard, Roger Grenier.
Oui, alors...
Agnès Piquel.
Je voudrais dire plusieurs choses, c'est que... ces rencontres de Sidi Madani, c'était quelque chose d'assez extraordinaire qui avait été mis au point avec l'appui de la sœur de Francine Camus. C'est très intéressant, cela. Et qui,
la femme de Camus.
la sœur de la
sœur
femme.
La sœur de la femme sœur, de Camus, pardonnez-moi.
Et ces rencontres de Sidi Madani ont été capitales et elles auraient dû se prolonger parce qu'elles mettaient en relation des écrivains de la métropole et des écrivains... Il y avait par exemple Mohamed Dib. Et Guillou était ravi d'être là-bas, sauf que Camus n'est arrivé que 15 jours après. Et dans les carnets de Guillou, c'est émouvant, il l'attend. Et effectivement, ils vont ensemble à Tipaza, où Camus, mais effondré, revoit son ami dire « Ah non, il manque quand même quelques nuages », alors que pour lui, Tipaza, c'est le bleu du ciel. Mais je veux dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, à mon avis, c'est que Camus emmène Guillou chez sa mère. Et ça, il y a très peu de gens que Camus a emmené chez sa mère. C'est-à-dire qu'il était sûr que Guillou, tel qu'il était, serait de plein pied avec cette mère pauvre qui devait ressembler très fort à la mère de Guillou.
Et Louis Guillou dit « c'est une grande dame », alors que vous avez dit tout à l'heure « c'est une femme illettrée ».
C'est une femme illettrée.
C'est une grande dame.
C'est une grande dame. Et quand on voit les photos, on a deux photos merveilleuses. Elle a un visage, mais rayonnant. Et c'était la générosité même, ce que Camus a compris et dont, avec quoi il a fait le portrait merveilleux des différentes mères, et en particulier de la mère de Jacques Cormery dans Le Premier Homme.
On a beaucoup d'entretiens de Louis Guillou, dont on vous passe quelques trop rares extraits, et c'est dû à l'activité pro-Guillou du directeur de France Culture, qui s'appelle Yves Jégu. Alors, oui. Il y a une légende à France Culture qui dit que comme il était un pécunieux, Louis Guillou, ben, le directeur lui donnait la clé du studio. Kevin Pelot, notre technicien en face, pas d'intervieweur, pas de journaliste, pas de réalisateur. Et il paraît que Guillou parlait tout seul. Et on lui donnait un cachet.
Alors, je ne sais pas, mais Yves Jégu, que j'ai eu la chance de connaître très peu de temps avant qu'il ne disparaisse, un homme extraordinaire, m'a dit qu'effectivement, il avait souvent interviewé Guillou parce qu'il avait besoin d'argent, mais qu'au-delà de ça, il aimait beaucoup, beaucoup. Et la manière dont Jégu parlait de Guillou, et je lui disais, parlez-moi de la relation entre Guillou et Camus, et il y avait une lumière dans les yeux de Jégu quand il parlait de l'amitié, quand il parlait de Guillou et de l'amitié entre Guillou et Camus, et cette lumière des yeux de Yves Jégu disait quelque chose des deux autres.
Alors voici un de ses entretiens rémunérés, et cette fois avec une journaliste, Anne Fabrelus, mais toujours sur France Culture, où Guillou parle d'Albert.
Nous avons eu le temps, Bonnier et moi, de parler d'Albert, adolescent, de savoir comment la première fois où Grenier est allé chez lui à Bellecour, et il a trouvé un jeune garçon plutôt muet, plutôt réticent, presque dur. Un garçon qui acceptait difficilement la conversation avec le professeur, avec l'homme d'une autre condition que la sienne, bien sûr. Que la rencontre se passait à Bellecour, à un moment où Camus était déjà pas très bien portant. Et Grenier m'a parlé ensuite en me disant qu'il était très orgueilleux, ce qui est vrai. L'orgueil est un élément de Camus contre lequel il a dû lutter toute sa vie, contre bien d'autres difficultés intérieures. Camus, Albert, on dit Camus aujourd'hui, nous disons Albert, était un homme qui passait sa vie à se conquérir sur lui-même, n'est-ce pas ? Et tout ce que nous connaissons de lui est obtenu, conquis, voulu. Il n'a jamais été entamé par sa gloire.
Agnès Piquel.
Alors, c'est vrai que Camus était orgueilleux. C'est vrai qu'il a beaucoup conquis sur lui-même. Et on le voit dans ses carnets, surtout dans le troisième volume de ses carnets, c'est-à-dire les années 50. Mais je voudrais revenir à ce que dit à la scène à laquelle fait allusion Guillou. Et dont Camus s'explique avec Jean Grenier dans leur correspondance. Il faut bien voir qu'à ce moment-là, Camus habite chez sa mère, qu'il est malade. Et que...
Son
prof vient le visiter dans cet univers de pauvres où il n'y a pas un livre, où il n'y a pas l'électricité, et le prof débarque là-dedans. Mais pour Camus, c'est terrible, et ce que Jean Grenier a voulu faire de positif, c'est retourner en une épreuve incroyable, dont il s'explique ensuite, c'est pour ça que l'on peut en parler. La correspondance Camus-Grenier est vraiment très très intéressante. Mais on imagine bien qu'il s'est raidi parce que il y avait deux mondes qui entraient en collision, mais absolue pour lui, puisque ces deux mondes étaient quand même, c'est Alger, c'est Bellecour et le Grand Lycée, qui étaient deux mondes hétérogènes.
Guillou dit, il ne s'est jamais laissé entamer par La gloire, parce que Guillou, il est quand même resté intermittent à France Culture. Quand il venait à Paris, il avait une chambre de bon,
oui.
C'est-à-dire une petite mansarde que lui prêtait Gallimard, et l'autre, il était prix Nobel.
Il a été prix Nobel en 57, oui, hein, leur amitié a commencé en 45. Non, mais bien sûr que Guillou a assisté à l'ascension fulgurante de Camus, et Camus s'est réjoui quand Guillou a eu le prix Renaudot pour le jeu de patience. Ça n'interférait pas sur l'amitié. Et tous ceux qui ont connu Camus disaient qu'il ne jouait jamais au grand écrivain. Catherine Camus dit « Je ne savais pas quand mon père est mort qu'il était aussi célèbre. » Et je crois que c'est tout à fait vrai, et elle l'a compris quand il est mort et que le monde s'était écroulé.
Alors, c'est une leçon de tenue dans la vie, oui, que l'existence de Camus. C'est une leçon de retenue dans les mots aussi. Parce qu'il y a une grande pudeur entre ces deux écrivains. Alors, peut-être se disaient-ils des choses très intimes sur leur vie amoureuse pendant leur conversation à Paris. Mais j'en doute. N'apparaît guère la maîtresse vénitienne de Louis Guillou, oui. N'apparaissent pas les innombrables maîtresses d'Albert Camus, oui, que lui envie peut-être Louis Guillou.
Non, parce que je crois qu'il a eu aussi ses succès. Hein. Cette maîtresse vénitienne, elle est venue à Paris parce qu'elle a publié chez Gallimard grâce à Liliana...
Je crois que ça commence par un M.
C'est Liliana Magrini. Merci, Liliana Magrini. Et c'est vrai que je me suis perdu dans la correspondance Magrini-Guillou. Et qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir publier? Mais il y en a 3000 pages, c'est pas plus faisable. Mais simplement, tout ce que Liliana Magrini dit de Camus à Guillou, puisqu'elle l'a vu autour de ce livre qu'elle publie chez Gallimard. Et ce sont des portraits d'une justesse. C'était une femme extraordinaire. Et il avait très très bon goût. Hein. Liliana Magrini, c'est pas... C'est vraiment une femme extraordinaire, je le dis. Donc oui, bien sûr, ils sont pudiques. Mais quand même, ils arrivent à laisser passer l'importance qu'a pour eux leur amitié réciproque. Et ça, ils arrivent à le dire, tous les deux.
Demain, nous parlerons de la mort de Camus et de l'année 1960. Le jour de l'enterrement de Camus, Guillou est là, à Lourmarin, et il veille à ce que la municipalité de Saint-Brieuc dépose une gerbe de fleurs sur la tombe du père de Camus, mort pendant la guerre de 14.
Oui. C'est très, très, très émouvant, les gestes d'une justesse totale de Guillou. Et ensuite, il est extrêmement proche de Francine Camus, qui voit tous les intérêts se déchaîner autour d'elle. Et il pense toujours à protéger Francine et à défendre, bien sûr, l'œuvre de son ami.
Et puis après, il y a une plaque, bien sûr, sur la tombe du père. Vous savez, les occasions funèbres en Bretagne, ça ne se manque pas.
En France, en général, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en ce moment.
Qu'est-ce que vous diriez de cette phrase? On s'arrange plutôt bien avec la mort, plutôt mieux qu'avec la vie. Ça, ce serait une phrase de Louis Guillou, c'est moi qui l'ai inventée. Ça ne peut pas être une phrase d'Albert Camus.
Non.
Pourquoi ?
Encore qu'il dit, dès le début de sa vie, qu'il faut se mettre en règle avec la mort. Et lui, à 17 ans, on lui a dit qu'il pouvait mourir quand il a eu son premier accès de tuberculose. Pour quelqu'un qui aime autant la vie, il faut se mettre en règle avec la mort. Et Nos, qu'on célèbre toujours comme le débordement de vie, c'est aussi une méditation sur la mort. Il faut lire Désert.
Oui, d'accord, mais quand Camus apprend que son ami Guillou, jeune, chez sa grand-mère qui vendait des articles funéraires, écrit ses devoirs de collège sur une dalle funéraire, il trouve ça bizarre. Quand même.
Il trouve ça bizarre, mais encore une fois, je crois que sa propre proximité avec la mort, il l'a vécu de l'intérieur de ses poumons, et que c'est autre chose qu'une dalle funéraire sur laquelle on fait ses devoirs.
Merci à vous. La Société des études camusiennes que vous présidez compte 500 membres, de plus en plus de membres du monde entier.
Voilà.
Et vous touchez des nouveaux pays. Alors la Chine du Sud, pourquoi la Chine du Sud, je ne sais pas.
Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé, qui est venu faire une thèse en France sur Camus, qui est reparti là-bas et qui a rencontré d'autres passionnés de Camus et qui lance... c'est le dernier exemple en date et j'en suis très très heureuse.
Dernière nouvelle édition de poche en date, Louis Guillou, Albert Camus, et puis chez Gallimard, la correspondance avec Nicolas Chiaromonte, ça c'est nouveau, et chez Bleu Autour, la correspondance avec la famille Benisti. L'émission était préparée par Franck Olivard, Kevin Pelot, Audrey Ripouille. Chez vous, monsieur Drouel. Bonjour Fabrice.
Bonjour Jean Lebrun. Je vais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU, est mort en 1961 dans son avion. Et a-t-il été victime d'un accident ou d'un attentat? Eh bien, vous ne le saurez pas, parce que je n'ai pas la réponse, moi non plus, mais je vais vous raconter l'histoire de ce secrétaire général de l'ONU, pas comme les autres.
Bravo, parce qu'on l'appelait Monsieur H, hein, par commodité, oui, à l'époque.
Hammarskjöld, c'est pas si difficile à dire. Je pense que c'était difficile à écrire.